Je voudrais bénéficier du privilège dont je dispose puisque j'occupe le micro pour poser peut-être la première question qui est un peu générale, mais je pense qu'il y a du sens. Nous avons vu qu'il s'agit pour l'essentiel de penser autrement, et ma question c'est avec quels outils ? Philippe a parlé d'hygiène conceptuelle, de nouveaux outils analytiques. De fait, la définition la plus simple de la science sociale, c'est d'être une science de la contingence. Et une science de la contingence, c'est une science probabiliste. Et donc, si nous voulons nous écarter du caractère fixiste ou substantialiste de toutes ces opérations de catégorisation qui ont été évoquées dans les exposés et qui nient les relations contingentes, et sans vouloir parler de la fonction propre de ce que c'est qu'une catégorie, et là son efficacité, mais on ne va pas en parler tout de suite, qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion du problème des apories du droit humain ou de l'appel à l'hygiène conceptuelle, Philippe, sans verser dans l'hyper-relativisme? Eh bien, si je veux être un peu provocateur, je dirais qu'il y a une solution assez simple. Si nous disons que toute unité sémantique, un mot, un concept, un type, est un système complexe, contingent, eh bien la seule solution pour travailler et pour s'écarter de ces pièges substantialistes et anti-relationnels, disons, c'est de formaliser, décomposer en toutes petites unités élémentaires pour placer toutes les relations partout où elles sont et imaginer toutes les déformations, transformations, déstabilisations et recompositions, et au bout du compte, de mathématiser, si je pousse le raisonnement jusqu'au bout. Il se trouve que le métaphysicien qui a pensé le plus le monde en termes d'entités et de relations, c'est l'auteur des célèbres Principia Mathematica avec Bertrand Russell, c'était Alfred North Whitehead, qui a fabriqué une ontologie métaphysique. Il n'en a jamais tiré une ontologie des sciences sociales, mais le problème était celui-là, penser les relations de manière dynamique. Et donc la question c'est, est-ce que cette hypothèse que je fais, qui permettrait de réunifier un peu les opinions sur la pratique scientifique, est-ce qu'elle a du sens? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est un horizon possible, y compris avec les algorithmes dont nous pouvons disposer maintenant? Après tout, ils nous serviront, et les données massives aussi. Est-ce que c'est un repoussoir, ou bien est-ce qu'on en a des formes approximatives? Ou alors il faut dire que face à des réservoirs de complexité, nous ne pouvons que décrire et pas expliquer en décomposant et en mathématisant, ou bien est-ce que c'est une impossibilité épistémique? Voilà ma question.
Moi, j'ai une réponse assez simple, c'est celle de la formation que j'ai reçue, qui était un grand professeur de cette maison, Claude Lévi-Strauss, qui a adapté l'analyse structurale à une branche des sciences sociales qui était l'anthropologie, et dont le principe est de considérer que tout est différent et que tout ce qui est différent prend sens justement à l'intérieur d'un système de différence. Autrement dit, qu'aucun phénomène, de la même façon qu'un phonème, ne peut être conçu indépendamment de la variation contrastive par rapport à d'autres phénomènes. Autrement dit, le principe que tu as évoqué de la décomposition, de la recomposition, c'est un principe classiquement structuraliste, à condition de ne pas le transformer en un formalisme. C'est un principe structuraliste parce que il a en plus une vertu, je dirais, éthique, qui est de ne pas prendre un point de vue en surplomb, un point de vue de départ, qui est celui d'une formule qui serait ontologiquement assignée à une ontologie particulière. Autrement dit, il n'y a pas de point de départ privilégié. On peut décomposer, recomposer ces systèmes de composition que Bruno Latour a évoqué, dont j'ai dit un mot aussi, en les considérant comme des transformations les uns des autres, et sans considérer que l'un d'entre eux a une valeur politique, morale ou quoi que ce soit, supérieure aux autres. Et donc on a un système là qui a le mérite de ne pas enfin, de décentrer le point de vue impérial que, peut-être par nécessité, nous, scientifiques, sommes obligés d'adopter. Et je ne sais pas si la réponse te satisfait.
Évidemment, sur les parenthèses, c'est peut-être assez simple, mais si tu élargis à tes objets, à toi, est-ce que c'est encore pensable ?
C'est ce que j'essaye de faire, oui.
En termes de structuralisme ?
Oui, absolument. Alors, moi, j'appelle ça une ontologie structurale, mais elle est toujours structurale, oui.
Pour le sujet que j'ai traité, que j'ai donné comme exemple, le droit formalise pratiquement toujours. Il s'agit de reformaliser très souvent selon d'autres catégories. C'est ce que l'on voit, ce qui s'est passé avec justement donner un statut spécifique à des transsexuels ou des intersexuels, des catégories qui n'existaient pratiquement pas dans le droit il y a encore 20, il y a 30 ans. Alors, d'une part, on voit donc une atomisation en fonction de ces nouveaux groupes, qui sont en général des groupes d'intérêt, qui exigent leur propre statut, leur propre protection. Mais il y a au-delà quand même le fait que le fondement, la justification de cette atomisation est un élément... Alors, nous ne sommes pas dans le non-humain ici, nous restons en principe dans le humain, qu'il s'agit là d'un élément qui est commun, d'où l'insistance sur les droits de l'homme, d'un même principe qui vaudrait pour toutes ces catégories. Ceci dit, on voit également, je l'ai très brièvement évoqué, il y a également un argument qui est avancé par certains, alors ça reste encore très minoritaire, pour l'instant ça peut paraître peu probable que cela va se réaliser, où l'on dit qu'il faut absolument, en droit, qu'il n'y a plus en fait d'utilité à encore utiliser le référentiel d'un genre ou d'un sexe du tout. Et alors là, si j'ai compris votre question, il s'agirait plutôt à ce niveau-là d'une déformalisation. Mais reste le problème en droit que, n'oublions pas que la manière dont beaucoup de droits fondamentaux, de droits humains fonctionnent, est une manière de, via negativa, par la non-discrimination. À cette logique et à cette norme, à cette valeur des droits de l'homme, qui continue à utiliser par des propos ou des agissements racistes, sexistes, et ainsi de suite.
De fait, on peut aller très loin dans l'exercice de la formalisation. Par exemple, les économistes formalisent beaucoup, mais ils ont aussi un problème, c'est de dire qu'il y a un deuxième niveau qui est quel est le type de normativité qui nous est utile ou non. Et ça, c'est une autre question. Parole à la salle pour les questions. De fait, on peut aller très loin dans l'exercice de la formalisation. Par exemple, les économistes formalisent beaucoup, mais ils ont aussi un problème, c'est de dire qu'il y a un deuxième niveau qui est quel est le type de normativité qui nous est utile ou non. Et ça, c'est une autre question. Parole à la salle pour les questions.